19h30 à Paris, 18h30 à Conakry.
Afrique Soir.
Afrique Soir, c'est avec Arthur Ponchelet. Bonsoir Arthur.
Bonsoir Diane et bonsoir à vous qui nous écoutez. À la une ce soir, il ne faut en aucun cas ouvrir une brèche où des actions extrajudiciaires puissent ternir l'image de la République. Les mots d'Amadou Ouriba tout à l'heure, le Premier ministre guinéen s'exprime sur la disparition de Fonike Menge et Biloba. Il assure que les enquêtes sont toujours en cours. Fin de visite de Johan Borgstam en RDC, le représentant de l'Union Européenne pour la région des Grands Lacs, a rencontré Félix Tshisekedi, l'occasion pour lui de rappeler la position de l'UE une semaine après son entretien avec Paul Kagame. Le président du Mozambique signe un accord avec l'opposition et des représentants de la société civile. Accord de compromis pour un dialogue national inclusif, oui, mais sans le principal opposant Venancio Mondlane. Lui continue de revendiquer la victoire à la présidentielle d'octobre. Au sommaire également, on est au Mali où le PAM alerte sur la fermeture de 400 cantines scolaires. En Guinée-Bissau, où nous emmène notre dossier ce soir consacré à la crise politique qui secoue le pays. Et puis au Parc des Princes, Cédric de Oliveira nous attend pour l'affiche du jour PSG-Liverpool. Coup d'envoi dans une heure. Le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif cette année. Les mots tout à l'heure du Premier ministre guinéen Amadou Ouriba était en conférence de presse à Conakry, rendez-vous durant lequel il a déclaré que le timing pour les élections présidentielles et législatives était en train d'être étudié. Le Premier ministre a aussi été interrogé sur les disparitions des voix critiques contre la junte, allusion aux deux activistes Fonike Menge et Biloba, mais aussi au journaliste Habib Marwan Camara. Amadou Ouriba assure que les enquêtes se poursuivent.
Nous regrettons qu'il y ait des situations où des personnes peuvent être considérées comme disparues en République de Guinée. Parce que cela veut dire que nous avons encore du travail. Et en tant que Premier ministre chef du gouvernement, j'ai indiqué à tout le monde et sur instruction du président de la République que tous les actes doivent être en relation étroite encadrés par l'ordre judiciaire. Il ne faut en aucune manière ouvrir une brèche où des actions extrajudiciaires peuvent compromettre le processus de transition actuel ou bien ternir l'image de la République et l'image du gouvernement. Je dois dire que tout ce qui s'est passé depuis juillet 2024 avec la disparition de Fonike Menge et de Bilo, c'est quelque chose qui n'a pas été dans un droit fil des intérêts du gouvernement. Je dis et je réitère que le gouvernement de la République de Guinée, le CNRD, n'a aucun intérêt de ternir tout ce qui a été fait depuis le 5 septembre 2021.
Le Premier ministre guinéen avec Mouktar Ba à Conakry. En République démocratique du Congo, clap de fin pour la visite du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, la quatrième en 6 mois dans la région. Johan Borgstam a rencontré hier Félix Tshisekedi. Une semaine plus tôt, il s'est entretenu avec le président rwandais, Paul Kagame. Passion Ligaudi ce matin à Kinshasa. Johan Borgstam a rappelé la position de l'Union européenne sur la guerre dans l'est de la RDC.
L'Union européenne rejette toute accusation de double standard en matière d'agression. C'est le message que Johan Borgstam affirme avoir adressé au président rwandais Paul Kagame lors de leur rencontre. Une réponse aux critiques comparant la position de l'UE face à la guerre en Ukraine et la présence rwandaise en RDC selon les rapports de l'ONU. L'envoyé spécial de l'UE insiste, le respect du droit international doit être une priorité partout dans le monde. Sur la question des sanctions, Bruxelles avance à son rythme. Le 24 février dernier, les États membres, a-t-il dit, ont pris une décision politique pour suivre la préparation d'une liste de sanctions individuelles. Désormais, ce sont les juristes européens qui examinent les dossiers pour s'assurer que les accusations sont fondées et conformes au droit européen. Autre sujet sensible, l'accès à l'aéroport de Goma sous le contrôle de l'AFCM-23. Johan Borgstam affirme avoir évoqué cette question avec les autorités rwandaises également. Ni le gouvernement congolais ni la MONUSCO ne contrôlent le site, affirme le diplomate européen. Une situation qui entrave toute opération humanitaire ou logistique vers l'est du pays. Aucune solution aérienne n'est envisageable à ce stade, explique Johan Borgstam. La seule alternative pour rejoindre Goma reste un passage par Nairobi, suivi d'un convoi terrestre.
Patient Ligaudy, le conflit dans l'est de la RDC au cœur aussi d'une conférence de presse d'une experte indépendante de l'ONU. Aujourd'hui, Marie Lawler dénonce les graves exactions du M23 contre des défenseurs des droits humains. La rapporteuse spéciale des Nations Unies dit avoir documenté des actes de torture, mais aussi des disparitions forcées dans le Nord Kivu. En bref, l'un des correspondants de RFI au Tchad, Olivier Monodji, a été placé en garde à vue ce mercredi à N'Djamena. Ce midi, alors qu'il se trouvait au bureau du journal Le Pays, dont il est directeur de la publication, il a dû suivre des policiers venus lui délivrer un mandat d'amener signé par le procureur de la République. Il se trouve depuis à la direction de la police judiciaire. Il n'a pas jusque-là été formellement entendu selon ses avocats avec qui nous sommes en contact. Son ordinateur a été saisi, mais aucun motif ne lui a été présenté pour justifier cette situation. Un accord de compromis politique pour un dialogue national inclusif, c'est le texte qui a été signé aujourd'hui au Mozambique. Accord entre le président Daniel Chapo et l'opposition, mais aussi plusieurs représentants de la société civile et religieuse. Objectif, rétablir la stabilité politique et sociale dans le pays après des mois de contestation post-électorale. Sauf que Lisa Fabian, une signature manque à l'appel, celle de Venancio Mondlane, l'opposant qui revendique la victoire à la présidentielle d'octobre.
9 signataires entouraient le président mozambicain Daniel Chapo pour l'adoption de ce pacte politique très contesté. Parmi eux, Albino Forquilla, le leader du parti Podemos, qui avait forgé une alliance avec Venancio Mondlane lors des dernières élections. Mais la décision du parti de siéger à l'Assemblée a été dénoncée comme une trahison par l'opposant qui a définitivement rompu avec le parti. Dans un discours à la tribune, Albino Forquilla s'est prononcé en faveur d'un Mozambique développé et réconcilié. Le chef de Podemos a demandé à la population mozambicaine de faire preuve de bonne volonté pour mettre fin aux crises dans le pays. Juste après lui, le président Daniel Chapo, issu du Frelimo, a appelé à la réconciliation des Mozambicains et condamné des manifestations violentes, illégales voire criminelles ces derniers mois. Au même moment, un cortège réunissant des centaines de personnes autour de Venancio Mondlane défilait dans les rues de Maputo. Mais la manifestation a été interrompue par des tirs à balles réelles de la police qui a également lancé des gaz lacrymogènes. Les partisans de Venancio Mondlane ont dénoncé une embuscade contre l'opposant.
Lisa Fabian, et au moins 14 personnes ont été blessées selon les observateurs locaux. En bref, au Cameroun, le Conseil de l'Ordre des Avocats a lancé aujourd'hui 3 jours de suspension du port de la robe. Objectif pour l'organisation, dénoncer les violences physiques, barbarie et autres traitements humiliants dont sont victimes de manière récurrente les avocats de la part des forces de l'ordre. C'est ce que dit le bâtonnier dans un communiqué. Les avocats protestent contre le passage à tabac ces derniers jours de 2 de leurs collègues. À l'écoute de RFI, 18h38 en temps universel, le Soudan du Sud s'enfonce encore un peu plus dans la crise politique et militaire. Depuis mi-février, les tensions se multiplient entre les forces loyales au président Salva Kiir d'un côté et les fidèles au vice-président Riek Machar de l'autre. Des combats ont notamment éclaté dans l'état du Haut-Nil. Dernier épisode en date, Guillaume Thibault, l'arrestation hier de proches de Riek Machar.
Pour les autorités, les proches de Riek Machar arrêtés ont violé la loi. Dans la nuit de mardi à mercredi, le ministre du pétrole, Piotr Kangchol, a été interpellé chez lui sans aucune explication ou base légale, estime son porte-parole. Et c'est au QG de l'armée qu'un autre allié important du vice-président, le chef d'état-major de l'armée, Gabriel Duoplam, a été arrêté. Une action illégale qui ne respecte pas l'accord de paix de 2018, a indiqué le parti de Riek Machar dans un communiqué. Lors d'un point presse, pour justifier ces arrestations, le porte-parole du gouvernement, Michael Makwe, a affirmé « Ce qui s'est passé à Nassir, notamment l'attaque d'une caserne de l'armée, a été coordonné depuis Jouba. Nassir, ville de l'état du Haut-Nil dans le nord du pays, est un fief de Riek Machar. Depuis mi-février, l'armée sud-soudanaise a engagé des opérations dans la zone, provoquant des tensions puis des combats avec la White Army, une milice alliée du vice-président. Riek Machar, qui appelle à tout faire pour éviter un retour de la violence à grande échelle. Dans son communiqué, le gouvernement demande à la White Army de laisser l'armée poursuivre son déploiement, de stopper les attaques et a appelé la population à ne pas paniquer.
Guillaume Thibault, il propose d'être un pont entre la CEDEAO et les pays de l'Alliance des États du Sahel. Le président du Ghana était en visite aujourd'hui en Côte d'Ivoire. John Dramani Mahama veut travailler pour que le Mali, le Burkina et le Niger restent dans la sous-région. Nous sommes prêts à les aider à combattre le terrorisme, a-t-il déclaré. Plus de 400 écoles maliennes privées de cantines depuis 6 mois. C'est l'alerte lancée financée par le Centre national des cantines scolaires du Mali et le Programme alimentaire mondial. En cause, David Bachet, des manques de financement.
Le Mali compte environ 9000 écoles. Plus de 1650 sont fermées à cause de l'insécurité, ce qui affecte près de 500 000 élèves. Désormais, 400 écoles, 112 000 élèves, sont privées de cantines, faute de financement. Diaounsédé Madiangar, du bureau régional du Programme alimentaire mondial à Dakar.
C'est le manque d'argent. On a besoin de plus de 17 millions de dollars américains pour pouvoir rétablir les cantines scolaires dans les écoles concernées. Le manque d'argent est dû au manque de contribution des bailleurs de fonds. Le gouvernement tout seul ne peut pas répondre à tous ses besoins.
Les écoles concernées se trouvent dans le centre et dans le nord du Mali, les zones les plus touchées par l'insécurité, où le PAM soutient le Centre national malien des cantines scolaires. Cet arrêt des cantines pose d'évidents problèmes d'alimentation, mais aussi de scolarisation, Diaounsédé Madiangar.
Beaucoup d'enfants viennent à l'école lorsque les parents ont l'assurance qu'ils trouveront à manger. Maintenant que ce repas, qui est dans la plupart des cas le seul de la journée pour la plupart des enfants, manque, il va de soi que la scolarité va être perturbée, la fréquentation va baisser.
Au Mali, 2 300 000 personnes auront besoin d'une aide alimentaire durant la période de soudure qui commencera dans quelques mois. Les cantines scolaires seront d'autant plus indispensables.
David Bachet, l'actualité au Mali, ce sont aussi ces mesures prises aujourd'hui en Conseil des ministres en réponse aux éboulements survenus le 29 janvier dernier à Kokoyo, et c'est en région de Koulikoro et à Bila-Likolo. Ces effondrements avaient fait plusieurs dizaines de morts parmi les orpailleurs. Plusieurs responsables administratifs, notamment les préfets et les sous-préfets, ont été limogés. Les permis d'exploitation des mines artisanales octroyées à des personnes étrangères ont aussi été suspendus. Et puis toujours au Mali, sachez que les nouvelles taxes annoncées le mois dernier sur l'achat des crédits téléphoniques, mais aussi les services de transaction par mobile monnaie, sont entrées en vigueur aujourd'hui. Deux jours plus tard, la tension ne retombe pas en Guinée-Bissau. Lundi, Oumaro Sissoko Embalo s'est déclaré candidat à sa propre succession. Pas du goût de l'opposition, qui elle estime que le président prolonge illégalement son mandat depuis jeudi. La Cour suprême avait fixé la date des élections au 4 septembre, date repoussée au 30 novembre par Oumaro Sissoko Embalo lui-même. Mais pour l'emporter, il devra forger de solides alliances pour contrer les coalitions de l'opposition. Écoutez la analyse de Vincent Fouché, il est chercheur au CNRS et au Laboratoire des Afriques dans le monde.
Alors on a deux principales coalitions, une coalition formée autour du PIGC, dont le candidat Domingo Simões Pereira a été président de l'Assemblée nationale dans la dernière mandature, interrompue par la dissolution prononcée par le président Embalo, qui avait été candidat contre Embalo précédemment. Donc ça c'est vraiment un poids lourd historique. Le PIGC c'est le parti qui a mené le pays à l'indépendance, donc avec une légitimité, un appui, un réseau qui s'érode petit à petit, mais qui reste quand même très significatif. Et puis de l'autre côté, on a une autre coalition, autour d'un ancien du PIGC d'ailleurs aussi, un homme d'affaires important qui s'appelle Brahima Camara, qui était précisément dans le parti en fait qui a soutenu Sissoko Embalo à l'élection précédente et qui donc a rompu avec lui depuis.
Dans ce contexte de tension, une délégation de la CEDEAO était à Bissau. Elle a préparé un projet d'accord sur la date des élections, mais elle a dû quitter précipitamment le pays car le président Embalo a menacé de l'expulsion. Pourquoi est-il aussi fermé à des discussions?
Il a dit que c'était parce que cette mission avait procédé à des consultations qui n'étaient pas prévues dans la feuille de route. Mon impression, c'est plutôt que la CEDEAO était sur une ligne, disons, plutôt favorable à l'opposition, donc pour demander des élections plutôt vite plutôt que plus tard. Et c'est pour ça, semble-t-il, qu'il les a expulsés.
La semaine dernière, l'opposition avait appelé à la mobilisation et à la paralysie du pays face à un très important déploiement sécuritaire. Cette mobilisation n'a pas pris, mais les positions semblent toujours inconciliables. Selon vous, comment la situation peut-elle évoluer?
Les manifestations, c'est très difficile de mobiliser, la répression est assez forte. Du côté institutionnel, on a un Parlement qui est suspendu depuis la fin 2023. La Cour constitutionnelle, elle a été prise en main par le président. Donc on a vraiment comme ça une sorte de vide, de chemin de contestation. Ça va être très difficile pour l'opposition de faire pression. En même temps, le président Embalo ne peut pas retarder indéfiniment l'élection. Donc au fond, tout va se jouer sur cette espèce de tension.
Et est-ce qu'on sait comment l'armée se positionne dans la polémique actuelle?
Alors l'armée, depuis le coup d'État de 2012, qui avait entraîné des conséquences très très problématiques, aussi bien pour l'armée d'ailleurs que pour le pays, est assez prudente. Évidemment, l'armée fait en sorte que le président la ménage, mais elle se tient à distance de la vie politique. Et de son côté, le président a renforcé sa garde présidentielle. Et on a vu d'ailleurs, au fil de ces années, des bastonnades par des hommes en tenue militaire masquée, jamais vraiment identifiés. L'opposition affirme que c'est la garde présidentielle qui mène ces bastonnades, qui servent évidemment à calmer les opposants qui voudraient aller un petit peu trop loin. Donc, on ne voit pas trop l'armée rentrer dans le jeu. En tout cas, maintenant, il faudrait une crise institutionnelle plus forte encore pour sans doute la faire bouger.
Le chercheur au CNRS Vincent Fouché, invité de Nicolas Sûr aujourd'hui dans Afrique Midi, entretien à réécouter sur RFI.fr. Une fuite de gaz en cours de réparation sur le site gazier GTA au large de la Mauritanie et du Sénégal. C'est ce qu'annonce aujourd'hui BP. L'opérateur britannique précise qu'il n'y a pas de risque pour les employés. Du personnel et de l'équipement spécial ont été mobilisés pour résoudre le problème. Du football et la suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Plusieurs affiches ce soir. Feyenoord Rotterdam affronte l'Inter Milan. Les Milanais mènent 1-0 à la mi-temps. Benfica joue contre le FC Barcelone et le Bayern contre Leverkusen. À suivre aussi ce soir, PSG Liverpool, c'est au Parc des Princes. Bonsoir Cédric de Oliveira.
Bonsoir Arthur.
Vous êtes sur place pour RFI, match qui s'annonce spectaculaire entre deux équipes qui sont parmi les plus en forme en Europe en ce moment, même si le PSG jouera à domicile. Il ne partira pas favori face au Red de Mo Salah.
Oui, effectivement, gros choc ici au Parc des Princes. C'est belle soirée entre les Parisiens et les Reds qui s'annoncent. Paris irrésistible en ce moment. Depuis début janvier, les joueurs de Luis Enrique ont remporté 15 de leurs 16 matchs et ils ont marqué plus de 50 buts, 54 pour être précis, largement leader de la Ligue 1 et facile vainqueur de Brest. Ils arrivent en pleine confiance, mais voilà, en face, il y a Liverpool, meilleure équipe de la première phase et en tête de la première ligue en Angleterre, considérée comme le championnat le plus difficile. Des Reds impressionnants cette saison qui vont pouvoir compter sur Mo Salah, la star égyptienne qui a 32 ans, fait la meilleure saison de sa carrière, 30 buts et 22 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il sera le principal danger pour le PSG. Son duel avec le défenseur portugais Nuno Mendes sera intéressant à suivre. Le Marocain Achraf Hakimi sera lui aussi sur le côté droit de la défense parisienne. Il passera un test face à cette équipe de Liverpool, tout comme ce PSG, équipe très jeune et qui va se confronter à celle qui se fait de mieux en Europe 6 jours avant le match retour à Anfield.
Eh bien, on suivra évidemment tout cela avec vous. Cédric de Oliveira en direct du Parc des Princes, PSG Liverpool. Coup d'envoi dans un peu plus d'une heure. Depuis le début de la semaine, RFI est en Côte d'Ivoire pour un coup de projecteur sur une industrie qui pèse de plus en plus lourd, celle des clips vidéo. Ce soir, dernier épisode, les producteurs et réalisateurs de ces clips voudraient voir l'industrie suivre les modèles des pays anglophones. RFI reportage, Marine Janin.
Les nouveaux réalisateurs de clips ivoiriens ont voulu imiter ce qui se faisait de mieux chez leurs voisins anglophones, tentant de s'inspirer notamment des cartons nigérians. Citons parmi les principaux Joro de Whiskey dans 2019 ou Doumebi de Rema la même année. Young Nushi, directeur artistique et réalisateur depuis 2020 chez le label Coast to Coast, fait partie des précurseurs. Il dit avoir voulu suivre l'exemple du Ghana.
J'ai vu que les scènes étaient assez mouvementées, donc on va dire que j'ai ramené ça du Ghana, quoi. Le réalisateur qui m'a inspiré s'appelle David Duncan. Il a réussi à taffer à lui sur plusieurs projets. Dans notre label, on voyage beaucoup, on va faire des clips en France avec des grosses teams au Ghana. Mais quand tu vois comment ça taffe là-bas ici, il y a vraiment une grosse différence, quoi. Il y a des bons talents, mais on va dire, il n'y a pas vraiment l'industrie. Voilà, mais on est sur la voie.
Les clips ne sont jamais rentables à court terme, souligne l'un des pontes du secteur, chez Koutal, qui dirige Coast to Coast. Car les chaînes de télévision, les réseaux sociaux et les plateformes vidéo en ligne comme YouTube ne génèrent que peu ou pas de revenus.
C'est un gros investissement marketing. YouTube ne se monétise que sur des gros marchés où ils peuvent avoir une régie publicitaire qui est conséquente. Et on est un pays de 28 millions d'habitants, et donc pour eux déjà qui n'étaient pas dans leur viseur. Le Sénégal, lui, a été monétisé grâce à un Sénégalais qui travaillait chez Google. Donc après, c'est à nos institutions, à un collectif d'artistes, de producteurs, c'est à tout le monde de se mettre en marche pour demander la même chose.
Plusieurs professionnels du secteur, dont Chekouta lui-même, tentent de faire rentrer la Côte d'Ivoire sur l'énorme marché que représente YouTube. Mais en attendant, explique-t-il, difficile de faire du clip un véritable business.
Non, je dirais pas qu'il y a une industrie, je dirais qu'on tend vers ça. On n'est pas bien organisé. On n'a pas de subvention pour des clips, on n'a pas de formation ni de fonds. Donc, sans formation et fonds, c'est un peu dur de dire qu'on avance comme une industrie, quoi. Mais en termes de publicité, que ce soit pour l'artiste, pour le label, pour la ville où on shoot, bah, c'est des messages forts qu'on lance et après qu'ils nous reviennent. Finalement, on le reprend quelque part. Peut-être pas dans le modèle économique, mais bon, il suffit d'en créer un qui sera bien pour nous, quoi.
Abidjan est devenu le décor privilégié des clips de nombreux artistes francophones de la sous-région, mais aussi des rappeurs français de plus en plus nombreux à venir y tourner. Kaaris d'abord, puis plus récemment Niska, Lala Ace ou encore Laylo. Et si des lieux comme le nouveau pont d'Abidjan sont rapidement devenus iconiques, c'est en partie grâce aux nombreux clips qui y sont tournés. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Voilà pour ce troisième et dernier épisode de cette série de reportages de Marine Janin consacrée à l'industrie des clips vidéo en Côte d'Ivoire. Série complète à retrouver sur RFI.fr. On continue de parler de musique dans Afrique Soir, car c'est l'heure de la chronique culture de Pierre Vallée. Pierre, ce soir, vous nous parlez du groupe Arat Kilo qui sort son cinquième album. Ce groupe, connu comme l'un des meilleurs d'Ethio Jazz, a fait évoluer son style, notamment grâce au rappeur américain Mike Ladd et la chanteuse malienne Mamni Keita.
Arat Kilo, c'est le nom du quartier étudiant d'Addis Abeba. Un nom tout à fait adapté pour un groupe de jeunes parisiens admiratifs du son ethio-jazz de l'Éthiopie des années 70. Mais ça, c'était en 2009. Depuis, le groupe a beaucoup joué, examiné le style éthiopien sous presque toutes ses coutures, enregistré plusieurs disques et a même eu l'occasion de se frotter au maître Mulatu Astatke. Depuis, Arat Kilo a beaucoup évolué. Et s'il reste toujours attaché à l'Afrique, l'Éthiopie s'est un peu éloignée de leur répertoire. Progressivement, le groupe trouve un son qui lui est propre. Autre signe de leur évolution, ils n'ont pas cherché à enregistrer tous ensemble comme on le fait pour retrouver l'énergie de la scène. Ce disque, ils l'ont enregistré en plusieurs étapes. D'abord les parties rythmiques, et puis les cuivres, les voix, et ont consacré beaucoup de temps à la production sonore. Si le son du groupe a mué, c'est en bonne partie grâce au rappeur américain Mike Ladd, dont le flow tranquille témoigne d'une belle sensibilité. Et grâce aussi à Mamani Keita. Sa façon de serpenter autour des mélodies est toujours aussi délicieuse, et l'ensemble forme un triangle entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique qui s'emboîte élégamment. Un disque en deux parties, une première sur laquelle on trouve quelques morceaux dansants et énergiques qui glissent doucement vers une deuxième partie plus lente et introspective, une invitation à la réflexion, à la prise de recul face à la cavalcade du monde.
Pierre Vallée pour l'agenda culture dans Afrique Soir. Le cinquième album d'Arat Kilo sort donc ce vendredi et on écoute l'un de ses titres, Mbendia.
soir.
18h54 en temps universel, la suite ce soir sur RFI. Dans 5 minutes, édition spéciale consacrée à l'allocution d'Emmanuel Macron. Le président français s'exprime. Ukraine, défense européenne, mais aussi investissement militaire. On suivra sa prise de parole à l'Elysée, puis débat et analyse présentés par Romain Ouzoui. À 19h40 en temps universel, le grand reportage nous emmène aujourd'hui à la rencontre de jeunes Nord-Coréens. Ils sont des milliers à avoir franchi la frontière vers le sud pour quitter la dictature. Et ils veulent lutter contre le régime de Kim Jong-un. Ils envoient des bouteilles à la mer, littéralement, remplies de clés USB, direction la Corée du Nord.
Dessus, on y met des films, des séries coréennes et des informations sur la Corée du Nord. Ce que la propagande du régime leur cache, comme la pauvreté, la malnutrition ou les maladies. Ensuite, on les envoie dans l'eau et le courant les amène sur les côtes nord-coréennes.
Les Nord-Coréens de la génération Z connaissent les codes. Un grand reportage de Celio Fioretti à écouter d'ici une quarantaine de minutes. Et puis à 20h10, temps universel couleur tropicale, Claudicia reçoit Alexis Onesta, créateur d'Omax Books, une maison d'édition qui s'intéresse principalement à la littérature afro-américaine. Il a collaboré avec Issa Rae, Common, Rick Ross et 50 Cent, dont on écoute un des titres légendaires In the Club.
We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday.
Et c'est avec In The Club qu'on se quitte pour la première édition d'Afrique Soir, préparée et réalisée ce soir avec Raphaël Lazizi, Sabine Mellet et Simon Bulbaudin. Merci à eux, merci à vous de nous avoir écoutés. Dans un peu moins de 3 minutes, édition spéciale consacrée à l'intervention d'Emmanuel Macron.
Édition spéciale sur RFI. Romain Ouzoui.
Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio France Internationale. Édition spéciale à l'occasion de l'allocution d'Emmanuel Macron dans un peu moins de 3 minutes maintenant. Le président français va s'adresser à la nation. C'est une information qui a été communiquée ce matin. Prise de parole qui intervient alors que la pression sur l'Europe est extrêmement forte. Sur la France également, évidemment, après le désengagement des États-Unis dans la guerre en Ukraine. Ce qui pose évidemment la question de l'avenir de la sécurité européenne. Dans ce contexte, demain aura lieu un sommet européen exceptionnel qui sera consacré à l'Ukraine. D'où le choix de cette intervention du président français ce soir. Intervention donc que vous allez pouvoir suivre en intégralité. Et ensuite, nous analyserons les propos du président français et les enjeux que ces propos soulèvent avec nos invités. C'est parti. Nos trois invités que je présente à présent, Jean-Philippe Moinet, que l'on retrouvera juste après l'allocution, directeur de la revue Civique, écrivain, auteur du livre Un journal sous influence, et puis nos deux journalistes qui sont à mes côtés en studio, Franck Alexandre, bonsoir.
Bonsoir Romain.
En charge des questions de défense à RFI, et Valérie Gasse, bonsoir Valérie.
Bonsoir Romain.
Chef du service politique de RFI. Valérie, l'Élysée précise que cette allocution va porter uniquement sur un sujet, la défense nationale dans le contexte ukrainien.
Oui, c'est le sujet dont Emmanuel Macron s'est emparé depuis plusieurs jours, voire semaines, avec l'arrivée de Donald Trump. Eh bien, ce sujet est revenu sur le devant de la scène. On a vu un président américain négocier avec vous, en tout cas annoncer son intention de négocier avec le président russe, un peu sur le dos de l'Ukraine et des Européens. Emmanuel Macron a commencé à se réintéresser à ce sujet et à sensibiliser, eh bien, ses compatriotes, les Français, à l'importance et aux enjeux de ce qui était en train de se passer et aux conséquences même que ça pouvait ça pouvait avoir. Alors, ce soir, le président décide de prendre la parole de manière solennelle. C'est une allocution à l'Élysée. Mais il avait déjà pris la parole plusieurs fois pour dire des choses aux Français. Dans la presse écrite, avec une interview dans la PQR, hein, la presse quotidienne régionale, il avait commencé à dire que la Russie était une menace existentielle. Ensuite, il avait fait une intervention sur les réseaux sociaux répondant aux questions pour faire comprendre ce qui était en jeu, comment il allait parler d'ailleurs à Donald Trump. C'était avant de se rendre à Washington dans le bureau ovale et de parler à Donald Trump. Et puis ce soir, eh bien, c'est l'allocution. Et à l'Élysée, il y a toujours quelques éléments de langage, hein, ces mots clés pour décrypter l'intervention qui va venir du président de la République. Eh bien, on nous parle de pédagogie lucide. Alors, pédagogie, ça veut dire quoi? On va expliquer aux Français quelle est la situation, faire le diagnostic et puis donner les enjeux. Et puis lucide, eh bien, ça veut dire que la situation, elle est compliquée, elle est menaçante et qu'il va y avoir des décisions à prendre en matière naturellement de défense, et il va en être question demain au Conseil européen avec les partenaires de la France.